France Culture.
Bonjour. On va chez Monsieur De Peritz. Là, c'est l'escalier A.
Eh ben, c'est ça.
Allez.
Alors, moi, je veux bien monter à pied.
Ah ouais?
Ouais, ouais. Allez, je me lance. Merci, monsieur, en tout cas.
Allez,
au revoir. Hop, un peu de renforcement musculaire.
Hello, ça va?
Ça va, et vous?
Ouais. Bonjour. Rentrez.
Paris.
France Culture.
Ouais, bah où vous voulez, là, c'est pas très grand.
Le Book Club.
C'est la moitié de mon.
C'est magnifique.
De chez moi.
Dans la bibliothèque de Thierry de Peretti.
Boire quelque chose, un café, un whisky.
Un whisky, waouh.
Non,
de l'eau.
Enfin,
ça aurait pu être vraiment drôle, mais vraiment non.
Moi, j'adore.
Moi, je veux bien un whisky, dit Margot.
Marie Richaud.
Le dernier film de Thierry de Peretti est une adaptation d'un roman de Jérôme Ferrari avec qui il partage des origines corses. Il y prend des libertés mais en garde le titre. Le film s'appelle comme le livre, à son image, et il avait été sélectionné à la quinzaine des cinéastes au festival de Cannes l'année dernière. Dans sa première vie, comme on dit, Thierry de Peretti a été comédien et metteur en scène. Il y a des traces de cette vie dans son grand amour pour les textes de Bernard-Marie Coltès. Il avait notamment mis en scène Key West et revient souvent à l'écriture puissante du dramaturge mort en 1979, quand il s'agit pour lui de se lancer dans l'écriture d'une nouvelle histoire pour un nouveau film. Thierry de Peretti partage sa vie entre Bastia et Paris, mais c'est dans la capitale que nous le rencontrons et découvrons ce qu'il appelle donc sa moitié de bibliothèque. S'y côtoient des romans, des livres de théâtre, une collection de cahiers du cinéma, des livres de photographie et une vue sur les toits de Paris digne d'un tableau de Nicolas de Staël. Ce jour-là, le vent souffle hyper fort, on croirait presque entendre le Mistral. C'est un souffle commun au texte que Thierry de Peretti choisit de partager avec vous. On l'écoute.
Non, je disais que c'était surtout un endroit où il y avait des livres plus qu'une bibliothèque. J'ai écouté certaines émissions où j'entends des invités qui se déplacent dans des grands appartements, dans
ouais,
le parquet.
Bah, heureusement qu'il n'y a pas que des grands appartements avec du parquet, parce que sinon ce serait quand même un peu triste. Et puis ça va, vous êtes servi, vous avez du parquet quand même.
Et j'ai du parquet, exactement.
On va voir là où il y a des livres.
Ouais, ben il y a des livres. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'en ai sorti beaucoup pour l'émission, en disant mais ça a été vraiment très difficile de choisir, de trancher. Donc il y en a pas mal qui sont sortis pour.
Sinon, il n'y a pas des livres sur votre bureau comme ça.
Il y en a là, un petit peu si en fonction du travail, il y en a un peu là. Et là, ils sont sortis, ça fait partie des hésitations que j'ai eues. Un peu là, voilà, un peu.
Ah oui,
peu,
il y a quand même des livres dans
ouais,
cette
ouais,
petite maison.
Oui. Mais donc, c'est pas la bibliothèque, voilà.
Mais vous faites une image, je pense, très normée de la bibliothèque, parce que pour en avoir visité quelques-unes ces deux dernières années, je peux vous dire que ça a vraiment la gueule d'une bibliothèque. On a vu des choses beaucoup plus désordonnées et beaucoup plus aléatoirement disposées.
Mais j'étais assez inspiré par la bibliothèque de Pascal Rambert, j'ai entendu.
Ouais, quatre livres, quoi.
Il a dit, il n'y a pas de livre.
Et c'est vrai, je trouve
que c'est vrai que j'enlève. Je
c'est
pas
vraiment
faire la même
vrai.
Chose, mais...
Sur les étagères, sur une étagère du salon, il y avait vraiment 5 livres.
Ouais. Mais en fait, je commence à, non pas jeter des livres, je jette pas des livres, mais en déposer.
Ouais.
Ou en bas de mon immeuble, ou à d'autres endroits pour les laisser. Et avant, je gardais le moindre prospectus en disant c'est pas possible de jeter quelque chose qui est écrit. Et en fait, plus ça va, plus je le déleste. Ouais, vraiment. Pour ne garder que. Ou des livres dont j'aime la présence ou que je peux consulter à des moments. Quoi.
Ok.
Voilà.
Alors, donc, si on parle de ces bibliothèques, donc au bout de cette pièce tout en longueur, là, il y a une bibliothèque en bois.
Ouais.
Et là, c'est plutôt ce que j'aperçois, en tout cas, des romans.
C'est un peu des romans et du théâtre, en fait. De mon ancienne vie où je faisais du théâtre. Je faisais beaucoup de théâtre. Et il y a pas mal de théâtre contemporain et des romans. Et pas mal de romans américains, en fait. Et italiens. Et des revues de cinéma. Enfin, des revues, les cahiers du cinéma.
Tout simplement.
Voilà.
Et donc ici, pile de livres qui nous étaient un peu destinés.
Ouais, qui ont fait partie des choix qui ne sont pas restés, mais pas mal d'Italiens, Léonard Sciascia, que je lis souvent. En fait, c'est beaucoup de romans ou d'ouvrages que je lis au moment où j'écris pour mes films, pour le cinéma. Voilà,
C'est quoi l'état d'incertitude, c'est ?
C'est Claude Régis,
c'est Claude Régis.
C'est un texte, c'est des pensées sur le théâtre qui est assez vraiment beau.
Guibert, vous avez connu Claude Régis ?
Non, pas du tout, j'ai vu certains de ses spectacles, mais je ne l'ai pas connu, non.
Fou de Vincent, Guibert.
Fou de Vincent, Guibert, il y en a beaucoup. C'était vraiment un auteur important pour moi quand je suis arrivé à Paris.
À quel âge ?
À 17 ans.
Ok. Comment vous avez découvert Guibert ?
Je pense que je l'ai découvert à cause de À l'ami qui n'a pas sauvé la vie, qui était très, qui a été vraiment le roman avec lequel il est devenu, ouais. Il a été connu par le grand public. Et ça m'a, je me rappelle d'une interview de lui. Je pense que c'était dans Apostrophe qui m'avait beaucoup touché, beaucoup intrigué. Et j'ai lu après pratiquement tout ce qu'il avait écrit et découvert son travail photographique aussi. Ouais. Et voilà.
Il y a aussi des livres dans ce que vous avez sorti, mais c'est peut-être la disposition de la table qui me fait dire ça, mais il y a comme un rapport presque de montage, en fait.
Ah bon ?
Peut-être,
d'accord, peut-être.
Oui, mais parce que je sais pas, ou c'est peut-être parce que je suis influencée par le fait qu'il y a des livres avec des images.
Peut-être.
Je sais pas. Le fait que sur votre bureau, il y a aussi des photos.
Peut-être.
Et des objets. Enfin, il y a un truc un peu comme ça, un peu comme une petite installation.
Il y a peut-être. Bah après, c'est les piles que j'ai mis pour.
Oui, c'est peut-être ça qui fait ça.
Voilà, mais en tout cas, ceux-là qui sont là, ils sont aussi liés à ce que j'écris en ce moment.
Ah oui.
Mes lectures
sont. Tous ceux qui sont là.
Un petit peu, un petit peu. Ouais, ouais.
On pourrait jouer à deviner, mais on ne va pas faire ça.
À deviner pourquoi, comment.
À deviner par où ça. Enfin, quels sont les liens avec ce que vous êtes en train d'écrire en ce moment.
Et voilà. J'avais même ça. Je ne sais pas si vous connaissez Renan, qui est un photographe, photographe chinois, qui a habité 10 jours ici. Dans cette maison.
Okay.
Qui a travaillé ici. Alors que je le connaissais, on ne se connaissait pas. Je lui avais
prêté. Vous lui avez prêté ?
Oui, parce qu'il y avait deux très bonnes amies qui le connaissait, il cherchait un endroit pendant que j'étais pas là, et il a écrit un recueil de poèmes, celui-ci, qui est vraiment...
Alors que lui est photographe.
Photographe, vraiment, ouais. Il est un photographe...
Très connu.
Assez connu maintenant, oui. Qui s'est tué. Et il y a ce recueil de poèmes qui n'a pas été réédité, qui est vraiment très, très, très beau, des poèmes très simples.
Et qui est hyper beau, graphiquement. Ouais. Ça s'appelle Word or Two.
Oui.
C'est que des poèmes en anglais. Ah,
c'est
court. C'est
que des poèmes, enfin, c'est des poèmes en chinois qui ont été traduits en anglais.
Ah, d'accord, ok, ok. Et vous avez travaillé pendant votre vie théâtrale sur Coltès et...
Ça, c'est le premier...
Ça en garde la trace.
Ça en garde, oui, ça, c'est le premier, ouais,
wow.
Ouais.
Et c'est pour nos auditeurs, c'est Key West.
C'est Key West, c'est le premier spectacle que j'ai mis en scène, ouais, il y a très longtemps. Et ce livre, je l'ai bien
traîné. Et fragile, ouais. Désormais.
Coltès, c'est vraiment... J'ai choisi un texte de Coltès, c'est vraiment un auteur vraiment très important pour moi, parce que j'ai commencé à faire de la mise en scène donc à partir de Key West, et puis j'ai monté beaucoup de textes de Bernard-Marie Coltès. Et mon rapport à la lecture a changé... Ouais, tout à fait, mon rapport à la lecture a changé avec Coltès. C'est comme si j'avais appris... une deuxième fois à lire avec lui, et aussi...
À quel moment ?
Au moment au moment où je mettais en scène Key West, c'est-à-dire quand j'étais à l'école, au cours Florent avec des amis, c'était vraiment un atelier, quoi. C'était pas une vraie mise en... Enfin, si, c'était une vraie mise en scène, mais disons que c'était pas une mise en scène qui était destinée à un grand public. Et ensuite, je pense que mon rapport à l'écriture, qui est une écriture... qui passe par les scénarios du cinéma, le rapport au texte de Bernard-Marie Coltès est toujours quelque chose qui me revient en tête. C'est-à-dire une écriture qui passe à la fois par la langue, par l'action, par quelque chose qui est absolument pas psychologique et par un grand esprit, beaucoup d'humour, quoi. C'est des textes toujours, même les plus profonds, les plus sont drôles chez Coltès.
Ce qui est un point commun avec un grand auteur contemporain que vous avez adapté au cinéma, qui est Ferrari, où il y a toujours quelque chose qui est hyper étonnant, même si c'est très différent de la langue de Coltès, mais il y a quelque chose de très profond, de très sérieux, presque de très ancien dans la langue de Ferrari. Et souvent, on rit quand même, bizarrement.
Oui, c'est vrai. Mais peut-être que c'est le propre de tous les grands auteurs aussi, d'être quand même d'être drôle ou d'être... Ouais, ou en tout cas d'avoir de l'esprit, quoi.
Ouais.
C'est
la moindre des élégances.
Enfin, il y a des auteurs qui sont bien dits positifs, c'est pas drôle du tout quand même. Mais...
Là, c'est une autre.
Là, c'est une autre. Ouais.
Et d'ailleurs, mon œil est attiré immédiatement par une photographie où il y a le nom de Coltès, Retour au désert.
Qui est une mise en scène que j'avais faite au Théâtre de la Bastille en 2001, disons qu'il y a le premier spectacle qui était un peu visible, que j'ai fait, et un peu le premier spectacle d'une série, un peu entre guillemets, dans le monde du théâtre. Ouais.
Mmh. Ici, c'est plutôt des livres d'images.
C'est pas mal des livres d'images, ouais, des livres qui sont liés à la photographie ou au cinéma, quoi.
Que vous consultez ?
Que je consulte, ouais, de temps en temps. Ouais.
Et vous avez des vieilles éditions, Molière, Racine, Rimbaud.
Ouais, ça c'est vieux, c'est très vieux.
Et ça c'est de que c'est quoi ? C'est pendant la jeunesse, c'est dans la famille ?
Ouais, c'est un peu. Je sais même pas. Non, c'est, je pense que c'est plutôt des livres que j'ai trouvé. Enfin, les Pléiades, c'est les Pléiades, et puis que j'ai trouvé, je sais pas, ou chez des bouquinistes, ou voilà. J'ai aucun souvenir des moments où. À part des cadeaux.
Ah, vous avez acquis.
Où on m'a offert les livres, mais j'ai pas de souvenir de à quel moment je les ai
trouvés,
achetés. Ouais, non.
On entend le vent, ouais. Wow. On est super haut. Hein.
C'est beau.
Ouais.
Vous avez grandi dans un endroit où il y avait des livres ?
Oui, beaucoup.
Ah oui, ouais. Vous aviez une famille de lecteurs ?
Ouais, ma mère est professeur d'histoire géo, donc elle lisait, et mon père lisait beaucoup, ouais.
Ok.
Ouais, et avec beaucoup de choses autour de Proust et beaucoup de choses autour de Rimbaud, c'est-à-dire pas
Pourquoi
simplement les textes, mais parce que mon père était un grand, grand lecteur de Proust et Rimbaud et fan d'eux.
Ok.
Ouais.
Ah oui, donc ils se documentaient aussi sur leur
vie. Oui, il y a beaucoup de... Ouais. Et je crois que j'ai gardé cette chose-là. Disons, les auteurs qui me sont chers, d'avoir tout lu.
C'est ce que vous faites ?
C'est ce que je fais. Mais après, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup.
Ouais, non, mais c'est en tout cas
lire,
un geste.
De lire tout. Et de lire beaucoup de choses...
Sur. Parce que ça vous intéresse, parce le dialogue entre la biographie et l'œuvre ?
Ouais, et parce que ça m'éclaire, et parce que ça... J'aime bien ça. De la même façon que j'aime beaucoup... J'aime la critique en général, la critique au cinéma, les gens qui écrivent sur les films, c'est quelque chose qui est très important.
C'est bien de le dire.
Ouais, parce que je considère que aussi écrire sur des films, c'est faire des films. Peut-être pas faire des films, en tout cas faire du cinéma.
On peut. Voilà, il y a des livres qui sont aussi posés sur la table, il y a une plante qu'il ne faudrait pas. Trop abîmée.
Parce que c'est vraiment chez elle.
C'est vraiment chez elle, en effet. Voilà.
Elle était beaucoup plus étendue. Ouais.
Bah, elle nous raconte que, en tout cas, c'est chez elle.
C'est chez elle, c'est clair.
C'est normal.
Voilà, non, c'est des livres de cinéma. Edouard Yang, qui est un cinéaste taïwanais que j'aime énormément. Et c'est un livre assez difficile. Un livre de Jean-Michel Frodon sur Edouard Yang qui est assez compliqué à trouver, que j'ai trouvé il y a à peine quelques jours et qui est voilà.
Et il y a des livres qui sont.
Et il y a des livres là, ouais. Et il y a des livres, c'est des livres de cinéma, livres sur le cinéma et des livres que j'ai lus dernièrement. Celui-ci, que j'ai failli prendre dans la sélection.
Ouais. Mais elle est sur commande de Christine Angot.
Ouais. Mais comme je connais. Que je connais mal Christine Angot, finalement, j'ai énormément aimé.
Il est beau ce texte.
Ouais. Trop fort.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Thierry de Peretti. Marie Richaud.
Eh ben, on va aller vers les textes que vous avez choisis.
Ouais, ouais. Ok.
Vous voulez qu'on s'installe quelque part en particulier?
Franchement, où vous voulez, les deux, tout est bien, c'est chez moi, hein, donc...
Moi, je me suis dit...
Par quoi on finit?
Moi, comme ça, très intuitivement, je m'étais dit, après avoir lu ce que vous racontez de Coltès et tout, je me disais, oui, bon, Coltès, ça pourrait être un début, par exemple, mais...
On peut essayer Coltès, c'est bien, moi, je trouve que c'est le bon...
J'ai juste les lunettes. Alors, donc, ce serait Coltès. Bah, Coltès, dont on a dit un petit mot tout à l'heure,
ouais.
Donc, amour de jeunesse... Rapport à la...
À la lecture, au théâtre, à la mise en scène, évidemment, parce que c'est vraiment un auteur de plateau et c'est vraiment un auteur qui pose des questions de mise en scène, de comment, voilà, qu'est-ce qui est dit, comment on dit, qu'est-ce qui se joue réellement, comment, à quelle distance d'un personnage de l'autre on peut... Un personnage doit se tenir d'un autre personnage pour parler, est-ce qu'il parle en étant perché, est-ce qu'il parle en étant au sol, est-ce que c'est que des questions, enfin, toutes les questions que posent les textes de Bernard-Marie Coltès, c'est des questions qui ont à voir avec
l'espace, quoi.
L'espace, l'acteur, le dire, enfin, c'est vraiment des textes physiques. Alors là, en l'occurrence, 12 notes prisonnières, c'est pas un texte de théâtre, mais c'est un texte qui fait partie d'un programme de théâtre, qui était le programme pour la création des Paravents de Jean Genet, mis en scène par Patrice Chéreau en 83 exactement, je crois que c'était peu de temps après l'ouverture d'Un enterre-amandier. Et donc il y avait un programme assez beau que j'ai là, je vous le montrerai.
Oui, c'est ça.
Avec des textes, il y a un texte de François Regnault, un texte de Chéreau et un texte de Bernard Coltès qui avait été, je crois, commandé pour l'occasion. Et ce texte s'appelle 12 notes prises au nord. Et voilà, c'est prise au nord de Barbès.
Barbès qui, pour
Barbès,
les auditeurs non parisiens, est un quartier au nord-est de Paris.
Et puis un carré était exactement au nord-est de Paris, où Bernard Coltès vivait, et qui était un quartier très, très important pour lui.
On vous écoute dans l'extrait ?
Ouais. Donc 12 notes prise au nord. 1. Là-haut, une moitié de gens marchent comme on marche d'habitude ailleurs, en mettant un pied devant l'autre et en regardant dans le sens où avancent les pieds, tandis que l'autre moitié marche à reculons. La solution est donc de se mettre avec quelqu'un qui marche à l'envers de soi, dans la même direction. Ainsi, côte à côte, si la sympathie est solide, on a une vue d'ensemble. De plus, personne ne peut avoir la moindre idée de l'endroit où on se rend, ni même de la direction que l'on a prise. On demeure sûr et secret, et personne n'ose poser de questions. C'est pourquoi... Le jour où l'on s'égare dans les autres quartiers où tout le monde marche comme on marche d'habitude, on est très gêné, parce qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe dans le dos. N'importe quoi peut arriver et la menace approcher en rigolant. Tout le monde sait tout, le lieu où chacun va et avec quelle hâte il y va. On est très mal à l'aise. 2. Il faut se rappeler, pour éviter de se perdre dans un dédale, que le hammam comporte 3 salles successives, distinctes, et dont la température est progressive. La première consacrée au bavardage, la seconde au massage, la troisième étant ouverte la nuit seulement pour les cas d'extrême urgence. Autrefois, à l'aube de leur libération, les femmes se levaient brusquement, secouées par un instinct aujourd'hui perdu. Elles traversaient le visage, elles traversaient le village, s'en allaient vers la forêt, s'enfonçaient dans la profondeur des arbres jusqu'à trouver l'endroit entre les troncs géants, au cœur de la prolifération, au ras du sol, qui fait une seconde forêt sous la première, un trou chaud, humide, sombre et secret, pour accoucher. D'autre part, les heures d'utilisation du hammam sont ainsi divisées par le vieux qui le garde depuis 25 ans. 10 heures à 16 heures pour les femmes, 17 heures à 20 heures pour les hommes, et de 22 heures à 5 heures du matin, exclusivement pour ceux dont l'usage de la troisième salle est extrêmement urgent. Voilà.
On s'arrête là ?
Oui, c'est bien. C'est pas un texte qu'on peut trouver, mais...
J'avais jamais entendu parler de lui, d'ailleurs. Mais c'est parce que c'est uniquement dans le fascicule.
Dans le fascicule, qui est vraiment... qui était les éditions Nanterre-Amandier. Et c'est 12 petites notes, comme ça, qui pourraient tout à fait...
Mais un peu topographique, comme ça, sur le quartier, quoi.
Oui, sur le quartier, mais qu'il décrit comme un pays. Hein, et à la fois comme un pays, et un pays aussi... un pays imaginaire.
Ouais.
Et c'est un texte qui,
qui résonne vraiment avec les paravents et qui est aussi... C'est marrant parce que Coltès, au début, dans ses premiers textes, il a été comparé à Genet, alors que c'est vraiment des auteurs vraiment très, très... non pas opposés, mais très loin l'un de l'autre. Peut-être que ce qui les rassemble, c'est que l'un et l'autre vraiment sont des auteurs de théâtre pur et des auteurs qui font exister les personnages par la langue. Quoi. Les personnages se constituent par...
Ce qu'ils disent
vraiment les définit, parce que le souffle nécessaire pour dire ce qu'ils disent et pour aller au bout des très longues phrases qu'ils sont obligés de dire, on peut comprendre un peu le rythme intérieur et donc savoir à peu près qui ils sont. Mais donc ce petit texte, parce qu'il y a tellement de textes de Coltès, on aurait pu prendre Key West et tout, et je me suis dit, bon, moi celui-là, il est plus inédit, plus petit et très beau.
Et drôle encore, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure.
Ouais, très drôle. Il y a quelque chose de très enfantin chez Coltès tout le temps.
Il est malin, quoi.
Ouais, exactement.
Et tout à l'heure, vous avez dit que donc, ça faisait partie d'un tournant dans votre vie de lecteur, et aussi que lorsque vous écriviez vous-même pour le cinéma, les textes de Coltès ne sont jamais loin. Ça veut dire que vous les relisez, ou ça veut dire qu'il y a une énergie de cette écriture-là qui est comme présente quand vous travaillez? Ce serait quoi?
Peut-être un peu les deux, je dirais pas, j'oserais pas dire que l'énergie est présente, mais disons que quand j'écris pas seul, notamment en ce moment j'écris avec mes camarades Jeanne Aptekman et Emmanuel Bourdieu, donc je suis pas tout seul et l'écriture de scripts est quand même moins, je dirais pas que c'est moins fort, mais bon, c'est pas la même, il y a pas les mêmes enjeux littéraires au cinéma qu'au théâtre, mais disons quand il y a des scènes que j'arrive pas à résoudre, surtout des scènes à deux.
Sur l'écriture des dialogues,
ou qui sont trop sentimentales, ou trop pathos, ou trop. La lecture de Coltès, ou repenser à Coltès, souvent me débloque des choses.
Mais pour voir comment il se débrouille, lui, par exemple.
Oui, comment il se débrouille, ou comment les personnages mentent, ou comment les personnages disent quelque chose alors qu'ils ont autre chose en tête, enfin. Passent par des tas de chemins de traverse pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est toujours, voilà, c'est toujours très ludique, très marrant et très physique, très dynamique. Et ça avance tout le temps. Et souvent, je dois repenser à lui pour me dire, bon ben voilà, ça me débloque souvent des situations.
Vous mettez quand même un enjeu littéraire dans l'écriture de vos scénarios?
Un petit peu, oui, parce que c'est une version du projet. Enfin, c'est à la fois pas tout à fait... J'aime bien penser que les scénarios sont pas juste utilitaires, qu'ils vont juste servir à... C'est une version du projet à un moment. Mmh. Mais de la même façon que les pièces de théâtre, elles sont aussi pas tout à fait...
Exactement.
Mais Coltès, en l'occurrence, c'est différent parce que je crois qu'il avait à cœur que ces textes, enfin ces pièces de théâtre soient lues comme des romans.
Et que ça tienne sans incarnation.
Et que ça tienne sans rien d'autre. C'est particulièrement flagrant avec Key West, qui est truffé aussi de passages ou de monologues intérieurs qui sont pas destinés à être joués, mais qui sont vraiment
qui nourrissent le reste
et qui sont faits pour être lus comme on le lirait d'un roman. C'est comme s'ils changeaient de mode en cours de texte. On commence par un texte de théâtre et puis ça devient un roman, ça revient à une pièce de théâtre et voilà. J'aime bien ce côté hybride, impur des choses.
J'ai l'impression qu'on est au bord de la mer. Il y a un vent qui souffle, presque comme si c'était un mistral, alors que non, nous voyons. On voit un océan d'arbres là-bas, je sais pas ce que c'est comme parc, mais bon, bref. Parenthèse refermée qui me permet de dire votre nom, Thierry de Peretti. Je me disais, les gens qui m'écoutent, on n'a pas dit Thierry de Peretti. Thierry de Peretti, quel est votre deuxième choix?
Mon deuxième choix. Pierre Paolo Pasolini.
Oui, voilà. Ça se fait comme ça, c'est sûr.
Ouais,
c'est
parce qu'on parle de mise en scène et voilà.
Et vous avez choisi quel texte?
Alors, j'ai choisi un extrait de un petit texte qui s'appelle Écrit sur la peinture et voilà. Et qui en réalité est beaucoup plus un texte sur le cinéma que sur la peinture. Et donc, cet extrait s'appelle Confession technique, automne 1965. Je me souviens avoir dit, dans un entretien de Paesa Serra, d'il y a un an ou plus, au moment où l'on annonça la production de l'Évangile selon saint Matthieu, que j'allais tourner ce nouveau film dans la rue, avec des acteurs venus de la rue, selon l'expression consacrée semi-péjorative. Autrement dit, comme à Catone.
et je voulais dire avec le même engagement réaliste que pour Akaton. Comme un peintre impressionniste aurait dit « en plein air » pour se distinguer de la peinture d'atelier. J'aurais, en somme, utilisé les mêmes moyens technico-linguistiques, les mêmes films-signes qui, comme chacun sait, ne sont pas très nombreux. 5 ou 6 focales, 4 ou 5 mouvements de caméra, quelques possibilités d'éclairage, contre-jour ambiance, attaque, soleil-nuage, lumière mixte, nuit. Bien sûr, les nuances entre les différents mouvements de caméra sont nombreuses, ainsi qu'entre les types de lumière. Un travelling peut aller de quelques décimètres à 20 ou 30 mètres, etc. Autant dire que face aux signes de la langue, de la musique ou de la peinture, cela n'est rien. Avec Akaton, n'ayant aucune expérience du cinéma, j'avais simplifié au maximum cette simplicité même, objectivement présente dans tout film. Et le résultat semblait être, et était en partie, la sacralité. Une sacralité technique, qui, à partir de là, envahissait en profondeur paysage et personnage. Il n'y a rien de plus techniquement sacré qu'un lent panoramique, surtout quand ce mouvement est découvert par un amateur et utilisé pour la première fois. Je ressens encore l'enchantement de ces panoramiques sur les murets décrépits, désertiques et ensoleillés du Pigneto. Sacralité, frontalité et donc religion. Voilà. Et bon, c'est un texte... Pasolini, c'est important, c'est aussi important que Coltès pour moi, mais ce texte-là aussi, j'y reviens parce qu'il est à la fois très simple, il appelle à la simplicité, à quelque chose d'assez cru, brut et vraiment minimal dans les outils avec lesquels on va travailler.
Ouais, faire on parle même de pauvreté du langage pauvreté. Au regard de ce que pourrait proposer la langue et quoi déjà ?
Et la langue, la musique et la peinture.
Voilà, la langue et la musique et la peinture. Voilà. Nous avons un pauvre langage au regard de ce que pourrait nous, les cinéastes,
ouais,
dit-il.
Exactement.
Nous avons un pauvre langage.
Exactement. Et souvent, c'est vrai qu'on est, en préparant un film, souvent avec les directrices de la photographie, on se pose ces questions-là. Quelle série d'objectifs on va utiliser ? Combien de... Et souvent, la réduction des moyens, des outils... Je la trouve toujours une bonne idée, quoi. Je la trouve toujours une bonne solution, et on le voit bien dans ce texte court de Pasolini qui est de la littérature, hein, qui est pas du cinéma, mais qui est de la littérature, de la littérature qui parle de son cinéma. On voit bien que quand on pense à quelques images des films de Pasolini nous reviennent, on voit bien l'épaisseur folle de toutes ces images,
malgré
de tous ces plans,
la soi-disant simplicité du langage.
Malgré cette simplicité-là. Voilà,
d'ailleurs, il va dans ce texte-là, qui est traduit vers le français par Hervé Joubert-Laurencin, vers le sacré ou vers le religieux. C'est-à-dire que la simplicité du langage n'empêche pas une très grande élévation. Quoi.
Tout à fait.
Vous auriez pu choisir des textes plus poétiques, de Pasolini, ou même parfois il y a des entretiens. C'est ce genre de texte-là que vous aimez ?
Alors, j'ai hésité avec Pétrole. À un moment donné, je vous avais envoyé Pétrole, un extrait de Pétrole, donc qui est son dernier roman inachevé.
Ok.
Et parce que je suis très, en ce moment, occupé avec la question du récit, quoi. Comment raconter ? Et je trouve, chez Coltès et chez Pasolini, une évidence et un souci de raconter correctement les choses qui à chaque fois, me bouleverse et me réveille.
Qui tient à quoi pour vous ?
Qui tient à la langue, ouais. Qui tient à une clarté et dans le projet politique, poétique, mystique.
Dur à atteindre.
Ah ouais, très difficile. Ouais. Et ce qui est étonnant, parce que en lisant, je repensais à la voix de Pasolini et à la voix de Bernard-Marie Coltès, qui ne se ressemblent pas, ils n'ont pas le même timbre, mais ils ont la même douceur et le même rire dans la voix. Toutes les interviews de Coltès et les interviews de Pasolini ont l'impression que tous les deux, l'un et l'autre, rigolent en même temps qu'ils parlent.
Il y a qui quoi de... qui est le signe de l'intelligence pour vous ?
Oui, qui est de l'enfance, de l'intelligence, d'une grande douceur qui est aussi mélangée avec quelque chose de beaucoup plus...
Parce que c'est pas comme si c'était deux êtres inhabités par la violence.
Non, pas du tout. Mais... dans leur...
expression, quoi.
Je trouve que c'est toujours important d'entendre les auteurs, bon, les poètes en l'occurrence, mais pas simplement les cinéastes, les metteurs en scène, les metteuses en scène, de les entendre, ça donne un contrepoint avec les œuvres, oui, qui est tout d'un coup qui ouvre plein de possibilités en tant que lecteur justement ou en tant que spectateur.
D'ailleurs, tout est possible parce que ça peut être un total contrepoint comme une parfaite continuation du texte. C'est toute la palette existe en vrai.
Contradiction totale. Oui, contradiction. Je comprends pas.
Ah bon, cette personne... fait ça. Ah oh là là.
Mais moi, j'adore cette sensation là de dire ah bon, mais c'est ah d'accord, c'est lui, c'est cette personne, c'est la même personne qui écrit et qui parle de cette façon-là, et voilà. Et c'est vrai que chez Pasolini, chez Coltès, il y a effectivement une grande violence, une grande crudité, ouais, une grande rage par moment, et une quand on les entend, une douceur et une clarté qui frappe.
Votre troisième choix, Thierry de Peretti,
En direct.
Je savais que ça marcherait, cette histoire de faire le choix comme ça là devant nous, voilà, avec les bouts de papier.
Alors je vais passer par Stephen King.
Ok.
Stephen King, différentes saisons. Alors c'est un extrait, différentes saisons, qui est un, peut-être que je le lis et après on en parle.
Ouais,
ou...
carrément.
Ah, on fait ça.
Les deux sont possibles.
Ah, mais on avait, non, je crois qu'on avait, on avait, c'est ce qu'on a fait avec Mathilde tout à l'heure, on a un peu changé l'extrait, pardon, je vous
barre. Ok,
ça vous embête pas, je vais le prendre sur
non,
mon...
Pas du tout.
Mon vieux, ma vieille édition de...
Vous n'êtes pas à page 362, 370.
Non, je suis page 369, 370.
Ok. Donc, vous lisez et on en parle après.
Allez. Vous voulez pas le lire, Marie ?
Ouais, pourquoi ?
Allez.
Ouais, carrément. Je le connais pas, mais...
Il va de là à...
Bah, j'y vais.
Jusque-là, et puis voilà, on va voir.
Je le découvre, donc on verra. Hein,
ouais,
sera...
très bien.
Naturellement, on en avait tous entendu parler à la radio. Notre radio, une Philco avec une caisse fendue qu'on avait aussi récupérée à la décharge, marchait en permanence. On la réglait sur Vlam, une station de Lewiston qui jouait les super tubes et les vieux classiques. What in the World Come Over You par Jack Scott, This Time par Troy Chandel, King Creole par Elvis et Only the Lonely par Roy Orbison. Quand c'était les infos, on mettait mentalement un disque de silence. Les infos n'étaient qu'un tas de conneries béates sur Kennedy et Nixon et Kimoi et Matsu et le retard en missiles et après tout quel salaud était devenu Castro. Mais on avait tous écouté un peu mieux l'histoire de Ray Brower, parce que c'était un gosse de notre âge. Il vivait à Chamberlain, une ville à une soixantaine de kilomètres de Castle Rock. Trois jours avant que Verne débarque au club après avoir couru 3 kilomètres, Ray Brower était sorti ramasser des murs avec un seau donné par sa mère. Quand la nuit est tombée, il n'était toujours pas rentré. Les Brower ont appelé le shérif et les recherches ont commencé. D'abord autour de chez lui et peu à peu dans les communes voisines, Motton, Durham et Pownall. Tout le monde s'y est mis, les flics, les vigiles, les gardes-chasse, des volontaires. Mais 3 jours plus tard, le gosse n'avait pas reparu. En écoutant la radio, on savait bien qu'on ne retrouverait jamais le pauvre gars vivant. Les recherches allaient peu à peu s'éteindre d'elles-mêmes. Il avait pu étouffer dans une carrière ou se noyer dans un torrent et dans 10 ans, un chasseur tomberait sur son squelette. On draguait déjà les étangs de Chamberlain et le réservoir de Motton. Aujourd'hui, dans le sud-ouest du Maine, rien de ce genre ne pourrait arriver. La banlieue a presque tout recouvert et les communes dortoirs autour de Portland et de Lewiston se sont étendues comme les tentacules d'une pieuvre géante. Les forêts sont encore là, de plus en plus épaisses vers l'ouest et les montagnes blanches, mais si vous gardez le cap assez longtemps pour faire 8 km dans la même direction, vous tombez immanquablement sur une route goudronnée. En 1960, par contre, rien n'avait été construit entre Chamberlain et Castle Rock. Et il y avait même des endroits où on n'exploitait pas la forêt depuis avant la guerre mondiale. À l'époque, il était encore possible de s'enfoncer dans les bois, de se perdre et d'y mourir.
Trop bien. Bravo. Donc c'est un extrait d'une des nouvelles, des 4 nouvelles du recueil qui s'appelle Différentes saisons. Mmh. Les 4 nouvelles, c'est été, automne, printemps, hiver. Mmh. Et celle-ci, qui s'appelle The Body,
le corps, l'automne. Alors c'est l'automne de l'innocence et le corps. Et c'est une nouvelle qui a donné lieu à un film de Rob Reiner qui s'appelle Stand By Me. C'est le film ou la première apparition de
Rip. Et c'est un gamin qui se fait tuer, dont on ne sait pas
gamin,
le corps.
C'est un gamin qui a disparu et dont on est sûr qu'il s'est perdu, qu'il est mort dans la nature. Et donc, un groupe de 5 autres gamins, les meilleurs amis de la Terre, décident de fuguer pour aller trouver le corps, the body, quoi. Voilà. Et donc, c'est à la fois un récit initiatique et un texte sur l'Amérique de ces années-là, etc. Et
pourquoi vous l'avez choisi?
J'ai choisi parce que j'aime beaucoup Stephen King.
Ouais.
Et surtout, j'ai fait un des tout premiers trucs que j'ai tourné, c'est une vidéo que j'ai appelée The Body. En référence à ce texte. Et qui est une espèce de battue dans la forêt de l'Ospedale, qui est une forêt dans l'extrême sud de la Corse. Et c'est vraiment un plan, un travelling très simple, et des gens qui sont en cape de pluie, en train de fouiller la forêt. Et il se trouve que 3 ans après cette vidéo, j'ai fait mon premier long métrage qui s'appelle Les Apaches et qui raconte aussi la disparition d'un jeune homme que j'ai écrit avec mon ami Benjamin Baroche et
Matrice, quoi.
C'était à la fois The Body et aussi tout le et Stephen King. Et à la fois Stephen King en tant que lecture d'enfants et d'adolescents.
Ce qui était le cas pour vous et votre co-scénariste.
Ouais, ouais. Et à la fois Stephen King donnant lieu des récits qui ont été adaptés au cinéma. Et ça, c'est les seules nouvelles de Stephen King qui ne sont pas ni fantastiques ni horrifiques. C'est les nouvelles les plus... réaliste, on va dire, de King.
Mais ça fait peur quand même. Il y a quelque chose dans cette littérature, pour moi qui connais vraiment très très mal Stephen King, qu'on a lu dans une traduction de Pierre Alliat, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est pas horrifique, ça n'est pas fantastique, mais ça fait quand même un peu flipper.
Oui, c'est 4 adolescents, ils sont 4 ou 5,
c'est la mort, c'est la forêt.
Ils vont découvrir le corps de quelqu'un de leur âge, donc c'est leur premier, bien sûr. Bien sûr que c'est l'automne de l'innocence, ça dit bien, et ça fait peur, mais c'est aussi un texte sur l'amitié, sur l'enfance, et c'est aussi un grand, comme toujours les textes de Stephen King sont des page-turners, quoi. C'était vraiment, dès la première, dès les premières phrases, on est totalement happé. Donc la question de la tension dans le récit, elle est... C'est quand même un maître, quoi, de dire, bon, voilà, comment il fait en sorte qu'on avance, quoi.
Mais tout à l'heure, vous avez dit que c'était une question qui était très au travail chez vous en ce moment, de comprendre comment on raconte bien.
Ouais.
Et pourquoi cette question-là, elle est particulièrement actuelle, ou elle est pour vous une question de tout le temps ?
Au cinéma, elle est importante parce qu'elle est...
Mais tout le temps, on peut dire qu'elle est tout le temps importante, cette question.
Oui, elle est tout le temps importante. Alors après, il ne faut pas confondre la question de comment on raconte avec les enjeux qui sont purement des enjeux d'intrigue, qui ne sont pas, pour moi, les plus passionnants. Mais comment on arrive, en tout cas, à faire en sorte que quelque chose parvienne et que toutes les dimensions d'un récit, là, on le voit un peu entre quelques pages que vous avez lues, la dimension... historique qui se mélange à quelque chose de beaucoup plus...
Même urbanistique, ici avant c'était pas construit.
Exactement, exactement. Alors que c'est King qui est censé être quelqu'un de plus... on peut imaginer que c'est quelqu'un qui se fout de ces questions-là, alors que pas du tout, que c'est un auteur plus politique que ce qu'on croit, mais aussi extrêmement populaire.
Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est l'efficacité ? Ou c'est plutôt des questions d'écriture ou des questions de politique aussi ?
C'est les deux, parce que...
Raconter des histoires, c'est très politique, quand même.
Les films que j'ai faits jusqu'à présent, à part le troisième, c'est des films qui s'emparent d'un moment de l'histoire d'un territoire, la Corse en l'occurrence. Donc j'ai à cœur que, quand je raconte des histoires en Corse, elles soient... saisie, que ce soit sensible et que toutes les dimensions puissent être accessibles, y compris par des personnes qui sont pas des cinéphiles de tous les jours, quoi. Donc le cinéma est peut-être quelque chose de c'est peut-être un peu con de dire ça, mais il y a quelque chose de plus populaire que le théâtre, je crois. Mmh. Je dis ça parce que je suis allé au théâtre très tard et au cinéma très très tôt, donc j'ai toujours l'impression...
Non, mais on peut dire ça quand même, que grosso modo, il y a déjà quand même plus de gens. Non, je sais pas, c'est vraiment à la louche, peut-être je sais rien de ce que je raconte, mais il y a quand même plus de gens qui vont au cinéma que de gens qui vont au théâtre. Et on peut dire qu'il y a plus de classes sociales qui sont représentées dans les salles de cinéma que au théâtre.
Peut-être, ah, peut-être, on est un peu... Non, si, mais bien sûr, vous avez raison. Mais voilà, il y a quelque chose de... C'est important pour moi que les récits, donc les films, soient... accessible à n'importe qui. Peut-être pas à tout le monde, mais à n'importe qui. Okay. Donc, voilà, Stephen King est un grand, voilà, grand raconteur, quoi.
Un grand cas de réussite de cette ambition-là. Mm. Quatrième choix, Thierry de Peretti.
Quatrième choix. Alors, c'est un texte de Marie Souzine qui s'appelle « La renfermée, la Corse ». Alors, le projet s'appelle La renfermée, la Corse, et c'est un... Il me semble, peut-être que je dis des bêtises, mais je crois pas que c'est un projet qu'on peut pas dissocier du...
Des images.
Des images de Chris Marker. C'est un projet qu'ils ont fait tous les deux. Et les photos de Chris Marker aussi se sont faites en Corse. Et voilà.
1981.
Ouais.
Exactement. Je le dis parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc de la décennie des années 80. Le programme à Nanterre-Amandier, c'était 83.
Ouais.
Là, c'est 81. Pasolini qui meurt en 75. C'est pas tout à fait les années 80. C'est 82, le Stephen King. Je suis pour.
Ouais, on n'est pas... Effectivement, on a...
Voilà.
Ouais.
Peut-être un truc avec les années 80. Mm. Une fois qu'on a dit ça, donc c'est Chris Marker, grand cinéaste, photographe, qui va en Corse avec Marie Susini, romancière, qui, elle, meurt en 1993. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus avant de vous écouter?
Non, voilà, c'est bien. Les années 60 ont marqué le tournant lorsque les rapatriés d'Afrique du Nord et d'ailleurs, les immigrés et les entrepreneurs, les touristes et les hommes d'affaires ont afflué en masse. La Corse, si longtemps isolée déjà de par son insularité, s'est ouverte à tout le monde. Ces étrangers, elle les a accueillis avec sa méfiance légendaire. Avec sa légendaire hospitalité aussi. Dans un premier temps. Comment pouvait-elle rester indifférente au sort de ceux qui avaient tout perdu en renonçant à leur terre? Et les Corses se sont décidés à vendre, à des prix dérisoires, il est vrai, les terrains au bord de mer, des terrains tellement arides et stériles qu'ordinairement on les réservait aux filles dans les partages de famille. Alors seulement, la France s'est réveillée de son sommeil de pierre. Elle, qui jusque-là n'avait rien fait pour ce pays, sinon le laisser végéter, le maintenir dans sa profonde léthargie, elle est intervenue pour faire réparer les routes défoncées depuis si longtemps que quelques-unes en étaient mortelles. Elle a aménagé les moyens de transport entre l'île et le continent, plus nombreux désormais et plus rapides, amélioré le réseau des télécommunications. Et voilà qu'elle a enfin songé à construire des barrages. Ils allaient bientôt inonder la plaine orientale, où rien ne poussait et que les chèvres elles-mêmes boudaient tant elle était desséchée. Si bien qu'a changé d'un seul coup le visage de la Corse, la spéculation commençait. Des demeures somptueuses et des villas modernes se sont mises à foisonner. La campagne brûlée s'est vue en peu de temps agrémentée de jets d'eau et de pelouses d'un vert qu'on ne connaissait pas, de piscines et de parterres de fleurs. Et la côte orientale, plate et uniforme, si désertique, est devenue une terre grasse et fertile, où abondent aujourd'hui les fermes modèles. Avec une magnifique impudence, se sont étalés au grand soleil jardins et vergers bien tenus, et les vignes et des rangées d'arbres fruitiers. Les barrages, en avait-on rêvé ici? L'eau qui se met à couler à profusion, à courir ivre sur une terre depuis le plus lointain des temps infécondes, inutiles. Pour qui donc les pouvoirs publics avaient-ils cette attention tardive? Pas pour les Corses, bien sûr, on n'en a pas douté un seul instant, mais pour tous les étrangers qui s'installaient sur son sol, très souvent sur les biens communaux. Il en fut même consenti des prêts à des taux insignifiants. Dès lors, l'étonnement a fait place à la colère. Alors j'ai choisi ce texte parce que je le trouve pareil d'une très grande clarté. Je trouve qu'elle arrive en une page et demie, hein, parce que c'est ça. Mmh. Alors c'est un texte assez ambigu, je trouve, dans son politiquement, de savoir à qui, où est le, où est-ce qu'il y a un reproche déjà, et à qui s'adresse ce reproche-là.
Ah oui, mais ça vous semble ambigu, par exemple.
Oui, je le trouve évidemment ambigu, parce que sur la question des étrangers, c'est sur la question de la... C'est marrant, parce qu'il rejoint, il peut rejoindre d'une certaine façon le propos de Jérôme Ferrari dans son dernier
dans
roman,
Nord
qui est Nord Sentinelle,
ouais.
Exactement, en disant qu'il faudrait tuer le premier touriste qui met un pied sur, le, sur l'île, parce que ça serait sur une île ou sur un territoire. Et donc, il est porteur d'une ambiguïté, mais je trouve qu'elle résume en quelques lignes, en une page et demie. Bon, il faudrait continuer un peu aussi pour voir comment ça se
développe. Moi, je trouve qu'on entend surtout la critique adressée à l'État français qui, jusqu'à ce qu'il y ait un intérêt, on va le dire rapidement, touristique, à moi, c'est celle, ça,
oui,
ça je l'entends
sûr.
Clairement.
Oui, bien sûr.
J'entends un peu moins l'ambiguïté du rapport aux étrangers, c'est
non,
le début
mais...
du texte.
Ouais, oui, bien sûr, il y a une certaine ambivalence dans le texte, mais c'est pas ça qui m'a intéressé le plus. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est d'arriver à résumer en une page et demie autant de choses
quoi.
Qui sont compliquées historiquement à expliquer. Moi qui souvent passe du temps à dire oui, mais c'est pas du tout ce que tu crois, c'est pas comme ça que ça s'est passé, nanana, à m'embourber dans des choses qui sont pas claires.
Dans le rapport à la Corse, vous voulez dire?
Oui, dans le rapport à la Corse, c'est toujours expliqué le comment c'est difficile de il y a un tel fossé culturel souvent, qui se fait jour entre la France et la Corse et qui demande à des moments de peut-être un peu de pédagogie, de clarification.
Mais c'est un fossé culturel de méconnaissance du territoire ou de méconnaissance de l'histoire du territoire.
Ouais, ouais. L'histoire du territoire, ouais, ouais, tout à fait. Et elle y arrive, et que je trouve ce texte en plus d'une grande sensualité, et il faut le lire dans sa totalité. Il est plus facilement trouvable, ce texte, mais c'est un texte d'une grande... d'une grande clarté politique.
Vous lisez beaucoup sur la Corse ?
Pas mal, ouais. En tout cas, j'essaie de lire les romans d'aujourd'hui. Je peux pas dire que je lis tout ce qui s'est écrit ou tous ceux et celles qui ont écrit en Corse, mais j'essaie de lire tout ce qui se fait, et il y a beaucoup de choses.
Est-ce qu'on dit d'autres choses de Marie Susini, ou on va vers votre dernier choix ?
On va aller vers le dernier choix.
Dernier choix qui tend vers l'Italie.
C'est marrant parce que comme je ne les ai pas lus beaucoup avant de vous voir, je les découvre en cours et je me dis, ah mais il y a une oralité.
Il marche, ouais.
Ouais, il marche. Bah, ça me donnera envie de l'entendre dans sa...
Ouais, ça parle,
dans
sa totalité.
Dans
les textes que vous avez choisis, ça parle.
Oui, ça parle, ouais.
Donc le dernier choix, par déduction, c'est Roberto Saviano.
Ouais, c'est Roberto Saviano, et c'est ma parmi ces cinq choix, la dernière... Le dernier roman que j'ai lu, que j'ai fini il y a très peu de temps.
Qui vient juste de paraître, donc.
Ouais.
Chez Gallimard, en tout cas dans la traduction vers le français de Laura Brignon, et qui s'appelle Giovanni Falcone.
Giovanni Falcone, exactement. Et c'est le dernier fragment, le tout dernier chapitre du roman.
C'est la toute fin.
C'est la fin, le dernier, voilà.
Est-ce qu'on dit un mot sur donc, l'objet de ce texte de Saviano, ou avant de l'écouter,
Qui est une... Je ne suis pas sûr de pouvoir en parler bien, mais qui est comme une... C'est pas une biographie du tout du juge Falcone, de Giovanni Falcone, mais qui est un roman qui raconte à la fois un moment de sa vie intime et un moment de sa vie politique.
De Falcone ?
Du juge Falcone, du juge Giovanni Falcone, qui est vraiment la grande figure de l'antimafia, en Italie, en Sicile particulièrement. Qui a été assassiné par Totorine, par la mafia, et qui a été... abandonné aussi par à la fois les siens et à la fois les pouvoirs publics et sa corporation, par beaucoup beaucoup de gens, qui a été délégitimé, isolé et finalement assassiné.
C'est tragique.
Oui. Et le roman de Roberto Saviano qui donc revient sur, c'est un roman assez costaud quoi, presque de plus de 500 pages, qui raconte les 10 ou 20 ans, c'est-à-dire du moment de la où le juge Falcone, où Giovanni Falcone commence à être juge, jusqu'au moment où a lieu le maxi procès de la mafia, donc à Palerme, et ce qui suit, 10 ou 20 ans. Et il alterne des moments des fragments très très documentés et très
avec des choses plus romancées.
Et avec des, alors pas tant romancé que ça, c'est presque un roman. Je pense que c'est un roman qu'on peut qualifier de non-fiction. Mais en tout cas, il raconte des moments très intimes du juge Falcone qui sont très 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 bouleversants.
Est-ce que, par exemple, moi, c'est toujours quelque chose qui me fascine dans ces personnes si engagées
dans des choses publiques, quoi. On peut dire que la lutte anticorruption, la lutte antimafia, c'est un souci du commun.
Oui.
Est-ce qu'on comprend les sources de cet engagement? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a un truc où on peut se dire, ah oui, d'accord, on comprend pourquoi cet homme, il a consacré sa vie, son énergie, jusqu'à une mise en danger de son existence, jusqu'à sa mort?
Vous voulez dire dans le roman?
Ouais, dans le roman.
Oui, alors, mais il se garde bien de faire des
oui, facile,
c'est pas
quoi.
Du tout... voilà. Il raconte d'où il vient, quels étaient ses parents, comment son engagement... En tout cas, c'est renforcé, parce que c'est ça qui est très beau. C'est pas simplement l'histoire d'une vocation ou d'une mission, c'est aussi l'histoire d'une conviction qui se raffermit malgré les difficultés, malgré les menaces, malgré la peur, malgré l'isolement, et c'est ça qui est très beau, qui est pas du tout ni un aveuglement, ni une obstination, mais quelque chose qui s'affermit, quoi.
Ça, et vous trouvez pas ça mystérieux?
Ben, le grand courage de certaines personnes est toujours mystérieux. Moi, je trouve toujours intimidant, mystérieux et admirable. Donc oui, c'est mystérieux. Ouais.
On vous écoute?
Oui. Le bureau de Giovanni Falcone est bien rangé. Il a tout laissé en ordre. Et ses collègues avaient tort d'interpréter cette initiative comme un adieu. S'il avait su que son or était venu, il ne serait pas parti avec la femme de sa vie. Il était convaincu d'avoir encore quelques moments à vivre pleinement et d'autres à gâcher. Alors, cette frénésie, ce besoin soudain d'ordre, reste un secret pour tout le monde. Sauf pour Paolo Borsellino. Il sait, lui, ce que voulait dire Giovanni quand il parlait de laisser les choses en ordre. Il était convaincu que bientôt il allait changer de poste, qu'il allait devenir procureur national antimafia. Il n'a jamais arrêté d'espérer que tout allait s'arranger, qu'on lui donnerait la possibilité de faire la lumière, mais pour de vrai cette fois, une véritable lumière qui déferrait les ténèbres et permettrait à tout le monde d'y voir clair. Il l'a espéré, souvent, et cela lui a valu des défaites, des trahisons, des humiliations. Mais il a continué d'espérer plus fort qu'avant. Pas une seule fois, mais à répétition, sans trêve, il a suivi son éternelle et formidable obsession. La pensée d'un monde sans plus de mafia brûlait dans sa poitrine, et quand une pensée habite les corps, peuple les esprits, un jour ou l'autre, elle finit par peupler également la terre. Tout cela, Paolo Borsellino le sait. Il est pareil. Et c'est pour ça que maintenant, il donne des coups de poing dans le mur de son salon en criant « Giovanni, Giovanni ». Le visage sillonné de larmes qui roule sur ses joues, rasées et tombe sur ses chaussures noires. Lui non plus n'a jamais cessé d'y croire. Seulement maintenant, il se sent seul. Et il était inévitable qu'il en soit ainsi, car le courage est solitaire. Le texte est flou, là. C'est comme si, effectivement, les larmes de Borsellino étaient tombées...
Sur la photocopie,
ouais.
Il faut dire que Borsellino, c'est un autre juge.
C'est un autre juge.
Et on parle de lui, donc, après l'assassinat de Falcone.
Qui sera assassiné aussi.
Et lui-même, il va être assassiné deux mois plus tard.
Exactement. Qui est un juge qui fait partie du pôle antimafia constitué par le juge Falcone. Et il y a Borsellino, mais il y en a d'autres, hein, puisque c'est vraiment tout un commando, j'allais dire, mais vraiment un escadron de juges qui ont mené un combat... voilà.
Mais quand même, ça se termine sur la dimension extrêmement solitaire du grand courage.
Oui, bien sûr.
Cette question-là, qui peut traverser, enfin, je pense notamment à votre dernier film, mais le rapport qu'on a dans des combats politiques, le rapport qu'on a avec la violence, le rapport qu'on a à la justice, c'est des questions qui vous travaille, Thierry de Peretti?
Oui, ça me travaille parce que en tout cas, au moment de faire des films, ça me travaille parce que je suis pas un écrivain. J'ai pas décidé d'écrire très jeune, comme c'est le cas des auteurs qu'on a lus, Bernard-Marie Coltès, Marie Souzine.
Vous auriez pu?
Je crois pas.
Ok.
Non, je crois pas parce que moi, je voulais être acteur.
Ouais.
Je voulais être
un
comédien, un comique en fait.
Ouais.
Oui, bien sûr. Mais en tout cas, je pourrais pas envisager de faire des films s'il n'y avait pas un ancrage c'est un peu pompeux dire ça comme ça, mais bon, s'il n'y avait pas un risque pris, quoi, s'il n'y avait pas un engagement pris, ça me paraîtrait complètement complètement vain. Ça ne l'est pas, hein, mais pour moi, ça le serait complètement. Je pourrais pas raconter juste mes propres histoires. Ou
ça donne du sens à, aux histoires que vous racontez, justement.
Oui, oui, puis parce que je viens d'un endroit, et le texte de Roberto Saviano, je le choisis à escient, je viens d'un endroit qui est très, en ce moment, voilà, qui n'est pas que difficile, loin de là, et qui est très, très beau et très inspirant, et avec des gens qui font des choses incroyables, mais dans un moment, là, en 2025, là, au mois de mai 2025, très, très difficile. Sur la question de la violence, sur la question de la criminalité organisée. Et donc, si on est artiste, évidemment, on ne peut pas évacuer ces questions-là. Beaucoup de gens aimeraient qu'on évacue ces questions-là et qu'on la boucle.
Parlez-nous d'autre chose.
Parlez d'autre chose et fermez-la et racontez à quel point la
les
rivière est belle.
Belles,
voilà. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire.
Merci beaucoup, Thierry de Peretti, d'avoir partagé votre bibliothèque avec
Merci
nous.
Merci, Marie, de m'avoir invité.
A mezzo a tutti i fiori amore, quando elli s'aprenu a tu l'albore, era quella na quad un ligore, mandatumi una mano per favore. Sbucian capo e gente vide ed è un altro senso alle mie lide fu per me come un anello alle dide e lui siamo io e mio veride e mio veride e mio ci portano di guai così intimo promesso allora mai e come le greve la verità nella sapiene forse la sai usente ancora udo dolore in petto quello che si è fermato
oh, ma... Merci beaucoup de nous avoir invités.
Merci.
Merci.
C'est super, merci.
Jour, hein.
Ciao, bravo.
Bah, c'est beau, bravo.
Voilà. Bravo.
Ouais, mais c'est tout moelleux en même temps.
Ouais.
C'est hyper moelleux, les salut.
Bon, rentrez bien, bon
merci.
Retour.
Merci beaucoup, au revoir. Un générique escalier ? À la prise de son pour cet épisode, c'était Sébastien Huel. À la réalisation, Margot Page. Au mixage, Marie-Claire Oumabadi. Pour retrouver tous les livres, les éditions, les traductions évoquées par Thierry de Peretti, vous pouvez vous rendre sur la page du Book Club franceculture.fr et c'est aussi sur cette page que vous retrouvez les autres portraits de bibliothèque du Book Club. Un grand merci à toute l'équipe.